États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme.
À l'heure où Donald Trump fait arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro, lorgne sur son pétrole et menace la Colombie ou Cuba, retour sur la longue histoire de l'impérialisme états-unien sur son continent. Coup d'État, sanctions, ingérences, comment Washington a façonné l'Amérique latine et comment les pays latino-américains ont-ils résisté ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Olivier Compagnon.
Épisode 1, 1823, la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains.
Nous devons cependant, à la bonne foi et aux relations amicales qui existent entre les puissances alliées et les États-Unis, de déclarer que nous considérerions toute tentative de leur part pour étendre leur système à quelque partie de cet hémisphère comme dangereuse pour notre tranquillité et notre sécurité. James Monroe, message adressé au Congrès des États-Unis le 2 décembre 1823. Bonjour Olivier Compagnon.
Bonjour.
Merci d'être avec moi pour raconter cette histoire en prise avec l'actualité entre les États-Unis, l'Amérique latine, ses désirs d'impérialisme, cette anatomie. On va essayer d'ouvrir le capot et de comprendre ce qui se joue dans l'actualité en revenant dans l'histoire. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, à paraître un aliendé qu'on attend chez Flammarion. Vous êtes l'un des grands spécialistes du sous-continent américain, mais aussi des États-Unis, donc vraiment du continent américain. Et j'ai commencé par... Allez, c'est un peu une tarte à la crème, mais 1823, la doctrine Monroe. James Monroe est président des États-Unis en 1823 quand il prononce ce discours. Donald Trump parle d'une doctrine Monroe aujourd'hui, hein, Monroe à la sauce Donald Trump. Revenons donc sérieusement dans ce premier épisode sur ce qu'est cette doctrine Monroe. On est en 1823. Premier élément peut-être important, quel est le contexte à ce moment-là pour les États-Unis ?
Alors, ce qui est surtout important, c'est le contexte latino-américain et le contexte européen. Le contexte latino-américain, c'est celui des indépendances, mais qui ne sont pas complètement terminées. Un certain nombre de pays ont d'ores et déjà proclamé leur indépendance. Elle a parfois déjà été reconnue par Londres, qui est à l'époque, évidemment, la capitale, disons, qui domine le monde et qui permet la mise en place effective de ces indépendances. Mais il reste encore deux grandes batailles qui scelleront définitivement le destin de l'Espagne en 1824, la bataille de Junin et la bataille d'Ayacucho. Donc en fait, c'est la fin du cycle des indépendances. Mais l'Espagne...
C'est juste ces batailles que vous avez citées, c'est...
1824.
Mais c'est où ?
Au Pérou, Argentine.
D'accord.
En gros. Donc voilà, c'est un élément important. L'Amérique latine est en phase d'indépendance. C'est pas entièrement terminé. Et donc, il y a toujours des peurs de reconquête. Sur le côté européen, le contexte est très très important puisqu'on est dans une phase de restauration monarchique, notamment en Espagne. Ferdinand VII vient d'être rétabli dans ses droits après ce qu'on appelle le triennat libéral entre 1820 et 1823. Et il y a donc en Amérique latine, et plus généralement sur le continent américain, dans ce qu'on n'appelle pas encore l'Amérique latine d'ailleurs, je le précise, il y a donc... un certain nombre de craintes de reconquête possible de la part des puissances européennes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Monroe, dans son discours sur l'état de l'Union, prononcé donc comme toujours à la fin de l'année civile, consacre une petite partie aux relations internationales et, effectivement, dit tout simplement aux Européens « Ne vous mêlez plus des affaires américaines », ce qui a été résumé par la formule « l'Amérique aux Américains
». Qu'il a prononcé lui-même, d'ailleurs.
Qu'il n'a pas prononcé lui-même. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent de mauvaises interprétations de la doctrine Monroe.
Entrons dans le texte et dans l'esprit.
Voilà, alors dans beaucoup de lectures un peu rapides qu'on en fait, on dit voilà, 1823, ce sont les fondements de l'impérialisme états-unien.
Oui.
Or, ce n'est absolument pas le cas. Certes, Monroe parle au nom des Amériques. Il y a déjà quelque chose d'un tout petit peu hégémonique, je dirais, dans la forme. Mais à aucun moment, il ne s'agit d'imposer une quelconque hégémonie des États-Unis sur le reste de l'hémisphère occidental, comme on dit. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, et là j'en viens au contexte états-unien, les États-Unis ont autre chose à faire à ce moment-là. Pour aller très vite, il y a l'horizon de la conquête de l'Ouest. Il faut construire le territoire. Deuxièmement, il y a le problème esclavagiste qui sera résolu au milieu du siècle, avec la guerre de sécession en 1865. Troisièmement, il y a la question indienne, entre guillemets, qui empoisonne aussi, je dirais, les débats politiques de l'époque. Et au fond, il n'y a aucune idée de projection des États-Unis.
De projection
en dehors,
de puissance, oui.
De projection
il
n'y
a d'ailleurs pas d'armée pour ça, ce n'est pas une armée de conquête du tout.
Il n'y a pas d'armée, tout ça.
C'est donc, une conquête intérieure, encore.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est la manière dont, je dirais, voilà, dans le sens commun, l'idée d'une doctrine Monroe fondatrice d'un impérialisme s'est construite tout au long des deux derniers siècles.
Et ça sera d'ailleurs l'objet du deuxième épisode, bien davantage avec toute la fin du 19e et le début du 20e siècle, avec notamment un autre président américain, Theodore Roosevelt. Donc là, l'esprit de la doctrine Monroe en 1823, c'est juste de dire aux Européens, ne venez pas entraver l'indépendance des pays américains du Sud. Et donc là, c'est plutôt la dimension ancienne colonie de la part des États-Unis qui compte, plutôt qu'impérialiste.
Absolument, c'est exactement ça. Il y a une communauté de destin du nord au sud, alors de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Il y a une communauté de destin qui est cette histoire coloniale qui a couru sur plusieurs siècles, que nous venons de rompre. D'ailleurs, dans des conditions relativement similaires et aussi dans un dialogue permanent, il faut jamais oublier que les premiers libertadores, libérateurs latino-américains, avant même de regarder, comme on l'a souvent dit, vers la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, regardez surtout la guerre d'indépendance américaine. Francisco de Miranda, un Vénézuélien, il est allé combattre dans la guerre d'indépendance états-unienne.
C'est un modèle.
Voilà, c'est bien sûr un modèle, et ça le sera d'autant plus au 19e siècle d'ailleurs, que les États-Unis sont républicains, comme tous les États indépendants d'Amérique latine, à l'exception du Brésil, alors que la France est moyennement républicaine au 19e siècle.
Oui. Mais c'est génial, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, historiquement, si un président américain se réclame de la doctrine Monroe de 1823, un État souverain sud-américain devrait applaudir.
Absolument. Dans une certaine mesure, si on revenait au texte initial de 1823, bien entendu, il devrait applaudir. On est tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Juste, je précise une chose quand même qu'on n'a pas dite. Il reste quand même Cuba, qui n'est pas émancipé. Et je le précise parce qu'on va nécessairement y venir dans les prochains épisodes. Il reste quand même des confettis, je dirais, d'empire espagnol, Cuba et Porto Rico, en l'occurrence, dans cette partie du monde. Donc l'indépendance n'est pas encore complète, il y a encore une présence européenne, et c'est ça aussi qui inquiète à ce moment-là. C'est que, certes, l'Espagne est dans une phase de déroute militaire face aux armées de Bolivar, qui effectivement ont quasiment libéré l'intégralité du territoire au moment de la doctrine Monroe. Mais il reste quand même ce qui a été le fleuron de l'Empire espagnol dans les Caraïbes, le premier endroit où Madrid a décidé de coloniser au sens propre du terme, au début du XVIe siècle. Il reste Cuba, et c'est ça aussi qui alimente les craintes à ce moment-là. L'Espagne a encore, je dirais, voilà, une présence très concrète dans l'espace caribéen.
Et est-ce que, à l'époque, parce que j'ai dit oui, aujourd'hui, ils applaudiraient les États sud-américains, la doctrine Monroe d'aujourd'hui, enfin en tout cas défendue aujourd'hui, parce qu'ils se disent que c'est notre indépendance et souveraineté qui est garantie. À l'époque, la doctrine Monroe a-t-elle un écho en Amérique du Sud?
Elle n'a pas un écho extrêmement important parce que, pour vous dire les choses clairement, les préoccupations politiques en Amérique du Sud sont tout autres. D'une part, comme je l'ai dit, il y a encore la guerre dans un certain nombre de régions. Et puis d'autre part, les nouvelles élites politiques qui accèdent au pouvoir ou viennent tout juste d'accéder au pouvoir sont en train de fabriquer ex nihilo, presque sur une table rase, des États indépendants. Donc à vrai dire, la doctrine Monroe a relativement peu d'écho. Il y a une chose qu'il faut noter quand même à ce moment-là, c'est que Monroe dit bien, voilà, renoncer à toute idée de recolonisation, mais il y a aussi une colonisation informelle, pour reprendre l'expression de deux historiens britanniques, une expression d'il y a très longtemps, qui se met en place au même moment, qui est la colonisation économique, commerciale, financière, britannique. C'est un des paradoxes aussi de ce contexte-là. La Grande-Bretagne, alors évidemment, foyer de la révolution industrielle, qui à ce moment-là a à la fois besoin d'un certain nombre de matières premières dont regorge l'Amérique latine, mais aussi de déboucher pour sa révolution industrielle, met littéralement la main sur l'Amérique latine d'un point de vue commercial et financier. C'est ce qu'on appellera l'empire informel britannique en Amérique latine. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne veut pas dire que le 19e siècle va être exempt de toute présence européenne, loin de là.
Et de toute présence états-unienne, Avant alors, même les grandes aventures militaires de la fin du 19e.
Alors, évidemment, une des choses qui a alimenté l'idée selon laquelle la doctrine Monroe était fondatrice de l'impérialisme états-unien, c'est 1848, lorsque les États-Unis récupèrent la moitié du territoire du Mexique indépendant. Le Mexique était devenu indépendant en 1821 et, en gros, perd la moitié de son territoire en 1848. S'agit-il à ce moment-là d'un projet impérial des États-Unis ? Aujourd'hui, l'historiographie est à peu près unanime pour dire que non. Il s'agit d'une logique d'achèvement du territoire, ce qui n'est absolument pas la même chose, avec l'obsession de faire coïncider un certain nombre de frontières physiques avec des frontières naturelles. Et donc, il y a cette barrière du Rio Grande ou du Rio Bravo, selon...
Oui, pardon.
On le nomme comme on veut. Non, il y a cette idée d'achever le territoire jusqu'à de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Et puis, il y a un autre enjeu quand même pour 1848, il faut le dire, c'est le début de la ruée vers l'or. Ouais. Donc il y a aussi là un enjeu économique. Mais en tout cas, les logiques qui président à l'annexion de la moitié du territoire, en gros, la moitié du territoire mexicain en 1848, ne sont absolument pas les mêmes que celles qu'on observera un demi-siècle plus tard, justement au moment du corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe.
Est-ce qu'il y a aussi, dans des cercles industriels américains, dans le sens états-unien, déjà un intérêt pour l'Amérique latine, disons dans le premier 19e siècle?
Non, extrêmement peu. Et surtout...
Parce qu'ils ont suffisamment de ressources chez eux, c'est ça?
Oui, mais il y a suffisamment de ressources à ce moment-là, et puis la révolution industrielle, elle est quand même plus tardive. Non, justement, le grand tournant, c'est la fin du 19e siècle, qui s'explique par toute une série de facteurs, mais notamment parce que c'est le moment où les États-Unis s'imposent comme la première puissance industrielle aux dépens de la Grande-Bretagne, justement, et se retrouve confronté en fait à peu près aux mêmes logiques que la Grande-Bretagne au début du 19e. Il faut à la fois trouver des débouchés, et puis aussi, comme on le sait, dans le monde depuis le 16e siècle, l'Amérique latine est un gigantesque réservoir de matières premières, ce qui renvoie aussi à l'actualité de 2026 et de l'invasion du Venezuela ou de l'enlèvement de Maduro par Trump
Mais là, c'est pas encore le pétrole. C'est quoi les matières premières qui attirent les capitaux, notamment britanniques, à vous écouter?
Alors, un des exemples très intéressants, par exemple, ce sont les nitrates au Chili, hein, qui servent notamment à la fabrication des munitions et qui vont alors à la fois assurer la prospérité chilienne au 19e siècle, et qui vont aussi motiver d'ailleurs le fait que le Chili va s'étendre vers le nord au détriment de territoires péruviens et boliviens, parce que les réserves de salpêtre sont dans le désert, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le désert de l'Atacama, qui est chilien et qui, au début du 19e siècle, était mi-bolivien, mi-péruvien.
Donc ça, c'est un exemple. Et qui, je crois, privera même la Bolivie d'un accès à la mer.
Et qui privera la Bolivie, définitivement, de son accès à la mer. Et puis après, il y a surtout aussi toute une série d'investissements britanniques dans les infrastructures. Par exemple, le chemin de fer qui fait son apparition au 19e siècle est un chemin de fer qui est construit presque exclusivement avec des capitaux britanniques. Un petit peu de capitaux français, quelques capitaux états-uniens à la fin du 19e siècle, mais vraiment l'hégémonie commerciale et financière de la Grande-Bretagne est absolument indéniable.
J'aimerais qu'on achève cet épisode avec un nom qu'on a rapidement prononcé, que vous avez rapidement prononcé, mais qui va, par sa dimension symbolique et politique, marquer toute notre histoire, c'est Simon Bolivar. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Simon Bolivar au 19e siècle? Et éventuellement, très rapidement, ce qu'on peut retenir de lui comme facteur important d'indépendance aussi de l'Amérique latine?
Alors, Simon Bolivar, c'est d'abord le libérateur. Je reprends très volontairement un cliché, mais ça, il dit quelque chose, ce cliché. Donc, c'est d'abord celui qui, depuis le Venezuela, il était vénézuélien, hein, depuis le Venezuela, a libéré, arme à la main, une partie de l'Amérique latine. Et ça explique les représentations qu'on continue de voir de Bolivar sur les places, les plazas de armas latino-américaines. Il est sur son cheval, épée à la main. Deuxièmement, Bolivar, c'est le républicain, c'est celui qui a beaucoup insisté pour que ce soit le régime républicain qui s'impose dans les États nouvellement indépendants pour marquer une rupture très très importante avec le passé colonial et monarchique. Et puis, c'est enfin celui qui a rêvé d'une Amérique latine, là encore, d'un nouveau monde ibérique, disons, ou anciennement ibérique, uni. C'est notamment tout le sens du congrès qu'il convoque à Panama en 1826, on en fête justement année le bicentenaire.
C'est dans un temps très politique.
Mais qui se solde en fait par un échec, parce que à ce moment-là, précisément, un certain nombre d'élites politiques locales voient finalement dans Bolivar une volonté hégémonique sur l'ensemble de la région, et ça se termine en l'autre boudin en quelque sorte.
Oui, comme disait Bolivar, l'unité sud-américaine, latino-américaine, c'est comme même labouré l'océan.
J'ai labouré la mer.
Voilà, labouré la mer.
Dit-il peu de temps avant sa mort en 1830.
Et labouré la mer, le labour sera encore plus difficile avec l'interventionnisme de plus en plus fort des États-Unis d'Amérique, du nord donc du continent. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. États-Unis, Amérique latine, Anatomie d'un impérialisme est un podcast original de France Inter.